à Washington.
Raïssa Girondin en direct de Washington pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Jean-Pierre Bemba acquitté en appel à la CPI qui l'avait reconnu coupable de crimes en Centrafrique. Au Cameroun, au moins 11 morts ont été tués dans une attaque terroriste dans l'extrême nord du pays. Au Mali, des milliers de personnes dans les rues pour exiger la transparence de la présidentielle de juillet prochain. Au Burundi, Pierre Nkurunziza affirme qu'il ne va pas se présenter en 2020, mais certains Burundis restent sceptiques.
Ce n'est pas la première fois qu'il prend sa parole. En 2020, nous verrons la récompense de ce qu'il a dit.
Sommet du G5 avec un gros contentieux commercial avec ses alliés. Donald Trump réclame le retour de la Russie dans le groupe.
La balance commerciale est tellement déficitaire aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe que si les Européens essayent de faire une guerre commerciale contre les États-Unis, les Européens perdront beaucoup plus que les Américains.
Et on verra pourquoi la FIFA a suspendu le président de la Fédération du Ghana dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. L'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel devant la Cour pénale internationale. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Anastasie Tudiech.
Pour la majorité des juges de la Chambre d'appel, Jean-Pierre Bemba est acquitté. La Chambre d'appel a estimé que les juges de la première instance ont commis des erreurs qui ont sérieusement entaché leurs conclusions, parmi lesquelles des charges formulées de façon trop large, la non-prise en compte des mesures prises par Jean-Pierre Bemba, le fait qu'il n'y avait aucune indication du nombre des crimes. Monsieur Bemba ne sera cependant pas remis en liberté immédiatement, car il est poursuivi dans une affaire de subornation de témoins. La Chambre d'appel estime de son côté qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en détention. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation pour le Congo, s'est réjoui de la nouvelle via un tweet. Le vrai jeu politique va commencer avec ce grand leader de la scène politique congolaise en liberté, a-t-il écrit.
L'ONG La Voix des Sans-Voix a dénoncé les conditions de la mort du colonel Oscar Mayembe, un officiel condamné pour l'assassinat de l'ex-président congolais Laurent Désiré Kabila en 2001. Évacué en urgence fin avril de sa prison vers l'hôpital, Oscar Mayembe y a passé plus d'une semaine sans bénéficier des soins médicaux adéquats selon l'ONG. Il est décédé le 1er juin. L'ONG dénonce aussi la volonté d'éliminer physiquement quelques 35 autres condamnés toujours en prison. Au Cameroun, une attaque terroriste a fait 11 morts et 2 blessés dans l'arrondissement de Maroua, deuxième, dans une province de l'extrême nord. L'attaque est imputée à Boko Haram. Plus de précisions à Yaoundé avec notre correspondant Emmanuel Juntap.
Selon le maire de Maroua 2e, Abdoulaye Yerima Bakari, joint au téléphone par VOA Afrique, les combattants de Boko Haram ont fait une incursion vendredi matin dans 3 quartiers de l'arrondissement de Maroua 2e. Durant leur incursion, ils ont égorgé 6 personnes, parmi lesquelles le chef de Magavi. La 7e victime civile, la mère du chef égorgé, a rendu l'âme des suites de crise cardiaque, selon une source médicale de la région. Cet après-midi, les sources de sécurité de la région de l'extrême nord ont annoncé avoir abattu 4 éléments de Boko Haram, blessé 1 et capturé 2 autres, tous ayant pris part à l'attaque meurtrière de ce matin. 5 fusils d'assaut AK-47, des boîtes de chargeurs et quelques munitions volées par les éléments de Boko Haram et appartenant aux forces camerounaises déployées dans cette région ont été récupérés entre les mains de ces assaillants. Le gouverneur de la région de l'extrême nord et son état-major ont effectué une descente sur les lieux ce matin et ont exhorté les populations à plus de vigilance. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Et au Mozambique, des attaques imminentes sont probables dans le nord du pays selon l'ambassade des États-Unis. Nous conseillons fortement aux citoyens américains se trouvant dans le siège du district de Palma d'envisager de quitter la zone immédiatement. C'est ce qu'a indiqué l'ambassade sur son site internet. Au Bénin, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a officiellement pris ses fonctions. Joseph Djobenou s'est engagé à satisfaire les droits des citoyens, mais la nomination d'un proche de la présidence suscite des inquiétudes dans le pays. Au Mali, suite à l'autorisation de la marche pacifique de la coalition pour l'alternance et le changement, des milliers de personnes ont manifesté. Elles exigent l'organisation transparente de l'élection présidentielle du mois prochain. Des précisions avec Kassim Traoré.
Place de la Liberté. Noun Togo fait partie des premiers marcheurs arrivés sur place. Il prend la température du terrain avant d'aviser les leaders qui peuvent faire mouvement vers le point de départ. Noun Togo, secrétaire à la communication de l'opposition.
Aujourd'hui, l'insécurité devient de plus en plus très grave au nord du Mali et au centre du Mali. Plus de 500 écoles fermées avec 2600 morts après la signature de l'accord d'Alger. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de travailler pour que nous puissions avoir une élection démocratique libre. C'est pour cela que nous profitons de l'occasion pour dire à la Cour constitutionnelle. Ils ne vont pas continuer à annuler les élections pour le plaisir d'annuler.
La coalition pour l'alternance et le changement dénonce la violation de la nouvelle loi électorale, car dans l'emplacement et la fixation des bureaux de vote, tous les partis politiques devaient être associés. Maître Demba Traoré de l'URD.
Nous avons compris que certains préfets n'étaient pas en train de faire ça, d'observer cette règle. Le ministre a été informé et il a dit à notre grande surprise qu'il n'était pas au courant. Nous sommes dans un état comme ça, les préfets font ce qu'ils veulent, le ministre n'est pas au courant et il faut faire confiance à ce processus. Mais ça, c'est des attitudes à dénoncer. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et ce processus a l'obligation d'être correct, d'être transparent, d'être crédible.
Tout au long de la marche, un important dispositif sécuritaire a été déployé pour encadrer la manifestation, qui d'ailleurs s'est déroulée sans incident. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, à peine ouvert, le procès de Jacob Zuma a été reporté au 27 juillet. L'ancien président est poursuivi pour une affaire de corruption qui remonte à plus de 20 ans. La prise en charge de ses frais d'avocat par l'État est au cœur de ce nouveau report. Selon le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, les frais d'avocat remboursés par l'État se montent à plus d'un million d'euros. Le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé des sanctions à 6 dirigeants de réseaux de traite des êtres humains opérant en Libye. Hermias Germey figure parmi les 6 hommes sanctionnés. Les Nations Unies indiquent qu'il est l'un des plus importants acteurs subsahariens impliqués dans le trafic illicite de migrants en Libye. Les sanctions, qui incluent une interdiction totale de voyager et un gel des avoirs, sont le résultat d'une proposition néerlandaise soutenue par la communauté internationale. L'ONU a averti qu'un demi-million d'enfants sévèrement malnutris autour du lac Tchad ont besoin d'une aide vitale, soulignant que le financement des besoins humanitaires est loin d'être suffisant. Moins d'un tiers des 1,5 milliard de dollars nécessaires pour cette année ont été reçus.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et le président Donald Trump a appelé ses homologues du G7 à envisager la réintégration de la Russie dans cette instance. Le sommet se tient au Canada sur fond de tensions avec les nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie, a déclaré Donald Trump. Le président américain a fait savoir qu'il avait hâte de remettre à plat les accords commerciaux avec les pays du G7. L'atmosphère s'est envenimée ces deux derniers jours. Donald Trump a répliqué aux critiques du premier ministre canadien Justin Trudeau et du président Emmanuel Macron. Il a ironisé en demandant au premier ministre Trudeau et au président Macron d'imposer aux États-Unis des taxes massives et de créer des barrières non tarifaires. Les quatre Européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte, se sont réunis avant le début du sommet pour examiner les menaces américaines de guerre commerciale. L'objectif, selon le président français, n'est plus de convaincre M. Trump de revenir sur les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Ottawa dit croire toujours possible d'élaborer un consensus sur la pollution plastique des océans, l'éducation des filles et la lutte contre les ingérences étrangères dans les processus démocratiques. Mais c'est le commerce qui sera au centre des débats.
Et donc on ne retrouvera ce volet dans notre partie magazine. Donald Trump a remis un titre posthume, donc la légende de la boxe Mohamed Ali qui avait refusé d'être enrôlé dans l'armée pour se battre au Vietnam. Il s'était vu retirer son titre de champion du monde et avait été condamné pour insoumission. La Cour suprême des États-Unis avait annulé la peine en 1971 et donc aujourd'hui le président Donald Trump lui a accordé une grâce posthume. En Autriche, le chancelier Sébastien Kurz a annoncé que son pays allait expulser plusieurs imams financés par l'étranger et fermer 7 mosquées afin de lutter contre l'islam politique. Selon le porte-parole du président turc Recep Tayyip Erdogan, cette fermeture est le résultat de la vague populiste islamophobe, raciste et discriminatoire dans ce pays. Et en Syrie, des djihadistes du groupe État islamique ont repris une partie de la ville de Boukamal dans l'Est en menant 10 attaques suicides qui ont tué 25 membres des forces pro-gouvernementales. Et voilà pour le journal Restez à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le Gabon lance son capital investissement avec près de 20 milliards de francs CFA. Ce nouvel outil au service des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries a été baptisé Okoumé Capital pour apporter un souffle nouveau aux entreprises locales. Cette structure est placée sous la tutelle du Fonds gabonais d'investissement stratégique. Elle a pour mission de développer un tissu d'entreprises, accroître les compétences et attirer d'autres investisseurs, soutenir les Gabonais dans la réalisation et l'expansion de leurs projets. Okoumé Capital se fera en 4 segments, le capital risque, le capital développement, le capital transmission et le capital retournement. Au Zimbabwe, la Banque de financement des infrastructures a approuvé 85,7 millions de dollars pour appuyer les projets bancables au cours de l'exercice 2017. Cette institution soutiendra des projets de logement, d'hébergement des étudiants, d'assainissement et de santé municipale et de réhabilitation d'une usine de traitement des déchets. L'excédent commercial de la Chine avec les États-Unis a encore gonflé en mai, malgré une accélération surprise des importations de Pékin. Mais ce surplus a reculé nettement avec le reste du monde. Sommet du G7 au Canada, le président américain Donald Trump a déclaré avoir hâte de remettre à plat les accords commerciaux injustes conclus avec les autres pays du G7. Le président du Conseil européen Donald Tusk, de son côté, lui a reproché de défier l'ordre mondial basé sur des règles communes, alors que Washington est son principal architecte et garant.
Et c'est la page sportive. Bonsoir Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir Aïssa.
La FIFA a suspendu le président de la Fédération ghanéenne de football.
Et oui, Kwesi Nyantaki, soupçonné de corruption, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par le président de la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA. Hier, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football après les révélations explosives d'une enquête journalistique sur la corruption des dirigeants et d'arbitres. Dans un documentaire, en effet, des journalistes d'investigation démontrent que Kwesi Nyantaki est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin.
Le marché des transferts, Harry Kane a signé un nouveau contrat avec Tottenham.
Tout à fait, l'international anglais a signé un nouveau contrat de 6 ans avec Tottenham, avec 41 buts, toutes compétitions confondues en club. Harry Kane a réalisé sa meilleure saison avec les Spurs et est terminé deuxième meilleur buteur du championnat anglais avec 30 réalisations, derrière Mohamed Salah de Liverpool, 32 buts. Débarrassé des tracasseries du Mercato, l'attaquant de 24 ans pourra entamer sereinement la Coupe du Monde avec l'équipe des Trois Lions, dont il a été nommé capitaine.
Et en Italie, David Astori serait mort d'une accélération du cœur. Triste nouvelle.
Oui, triste nouvelle, Raissa. Le défenseur italien de la Fiorentina, décédé à la veille d'un match au mois de mars, serait mort à cause d'une accélération anormale du rythme cardiaque, d'après un écrit du quotidien italien Corriere della Sera, citant le rapport d'autopsie. David Astori est décédé à 31 ans dans la nuit du 3 au 4 mars dans une chambre d'hôtel d'Udine où la Fiorentina devait disputer un match de championnat. Les experts chargés des examens sur le corps d'Astori ont déposé cette semaine leur conclusion au parquet d'Udine.
Et Nadal Thiem, ce sera l'affiche de la finale de Roland-Garros en tennis.
C'était pas ce qui était attendu, mais c'est ce qui est là. Dominique Thiem a été le premier finaliste à 24 ans. Thiem disputera dimanche sa plus grosse finale. Après deux demi-finales de rang en 2016 et 2017, l'Autrichien a franchi le cap et retrouvera donc Rafael Nadal pour disputer le titre de Roland-Garros. L'Espagnol, le roi de la terre battue, a en effet sorti l'Argentin Juan Martín del Potro en demi-finale.
Ben c'est super, merci beaucoup Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Raissa Gironda avec vous pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'ancien vice-président et ex-chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel devant la Cour pénale internationale. Il avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Les réactions à Kinshasa avec Thierry Kambundi de Top Congo FR, notre radio partenaire.
C'est l'ambiance qui a régné au siège du mouvement de libération du Congo à l'annonce de l'acquittement du président du parti Jean-Pierre Bemba Gombo. Les militants ont pris d'assaut le siège du parti dans la commune de la Gombe au rythme des chants et danses en l'honneur de leur leader. Valentin Guerengo est député national élu MLC.
J'ai suivi ces dossiers, j'ai effectué des voyages, j'ai fait une mémoire sur ça, j'ai écrit un livre. C'est un dossier qui me tenait à cœur. J'ai suivi pas à pas. Aujourd'hui, je dois vous dire que je suis le plus heureux. Jean-Pierre Bemba n'est pas libéré, mais il est acquitté.
Comme lui, ces militants restaient fidèles au mouvement de libération du Congo malgré ces 10 longues années passées par leur leader en prison.
Je m'appelle José Apingaka. Sentiment de joie, de satisfaction, d'action des grâces à Dieu. Comme on dit toujours, avec Dieu nous vaincrons. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'emprisonnement, il y a aussi un temps pour la libération. Le temps de la libération a sonné.
Je m'appelle Monsieur Papim Bongi. Pour nous, c'est la joie parce que Jean-Pierre Bemba est dehors.
Jamais enterrer quelqu'un avant la décision de Dieu, a réagi pour sa part l'opposant Vital Kamerhe, pour qui le vrai jeu politique va commencer avec ce grand leader de la scène politique congolaise en liberté.
Il ne faut jamais souhaiter le malheur des autres. Là, il s'agit d'un frère que je connais très bien, qui a souffert. Et il sait très bien combien et comment nous avons organisé son départ en exil avec Madame Eve Bazaïba. Aujourd'hui, je suis un homme très heureux parce que je n'aime pas l'injustice sous toutes ses formes.
Sur son compte Twitter, Moïse Katumbi a pour sa part félicité son compatriote Jean-Pierre Bemba en ajoutant, je cite, « Son acquittement montre que la vérité finit toujours par triompher. À ceux qui utilisent encore des faux procès, cette décision marque le début d'une nouvelle ère de justice pour la République démocratique du Congo. » Fin de citation. Une folle ambiance a envahi les rues de Kinshasa. Des célébrations, des klaxons des véhicules et des motos ont duré plusieurs minutes après l'annonce de l'acquittement de l'ancien vice-président de la RDC, challenger du président Kabila en 2006, dont les Kinois attendent désormais le retour à Kinshasa.
Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Bienvenue dans À votre avis de 18h, temps universel sur VOA Afrique. La Cour pénale internationale a acquitté en appel l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. Cependant, il reste en prison car il est poursuivi dans l'affaire sur la subornation de témoins. En revanche, la Chambre d'appel exhorte les juges de première instance à examiner d'urgence la mise en liberté. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct sur le +1 202 205 26 33. Rendez-vous sur le www.voafrique.com.
Et c'était la surprise au Burundi, au sein de la classe politique et même de la population à Bujumbura, après l'annonce fracassante faite par Pierre Nkurunziza de ne plus briguer un autre mandat. Alors que l'opposition ne croit pas à cette annonce, certains Burundais voudraient lui donner le bénéfice du doute jusqu'en 2020. Notre correspondant Christophe Nkurunziza à Bujumbura a tendu le micro à certains Burundais.
Au lendemain de la déclaration du président Pierre Nkurunziza qu'il ne va plus briguer un autre mandat en 2020 et qu'il soutiendra de toute son énergie et de toute son intelligence le prochain président qui sera élu, certains Burundais de la capitale Bujumbura ont des avis partagés. Les sceptiques sont nombreux.
Qu'est-ce qui l'a poussé réellement à ne pas briguer ce mandat, alors que, vu ce qui s'est passé pendant ce troisième mandat, cela m'amène à bien des questions que je peux me poser personnellement, mais... Attendons voir.
Monsieur Nkurunziza, même en 2015, il a prononcé un discours qu'il quitterait le pouvoir. Il n'a pas quitté le pouvoir. Ce n'est pas la première fois. En 2020, nous verrons la récompense de ce qu'il a dit.
L'opposition intérieure et celle en exil ne croient pas à la promesse inattendue du président Pierre Nkurunziza. Pour ses opposants, le président burundais veut distraire la communauté internationale et le peuple burundais pour que le moment venu en 2020, il revienne à sa présidence à vie, la nouvelle constitution pouvant lui permettre de diriger le pays jusqu'en 2034. Mais pour le président du parti UPRONA, Union pour le Progrès National proche du pouvoir, Abel Gachati, l'annonce présidentielle a pris de court les opposants.
C'est un message qui a coupé coupe spéculation à certains politiciens qui ne faisaient que dire que le président de la République a proposé l'amendement de cette constitution pour s'éterniser au pouvoir.
Le journaliste Jean de Dieu Senguiyumva, membre de la société civile, salue le courage du président burundais, même s'il se pose de nombreuses questions.
Est-ce qu'il a été poussé à renoncer à ce mandat? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce qu'il s'agirait d'une sorte d'oppression qui proviendrait de son propre parti politique, le CNDD-FDD? Est-ce qu'il se sent finalement incapable de continuer à diriger le pays? Est-ce qu'il est fatigué? On ne sait pas encore la raison qui a poussé le président Pierre Nkurunziza a fait cette annonce que je salue parce que ça va contribuer à coup sûr à assainir le climat politique.
Julien Nimubona est politologue qui enseigne à l'Université du Burundi.
La croyance en la parole du chef de l'État, le respect de la parole donnée. Il veut apparaître comme un chef d'État, un homme de Dieu. On accorde crédit à son discours. Deuxième façon d'analyser la chose, c'est un homme au pouvoir, un chef d'État qui est pris dans des contradictions internes à sa famille politique. Enfin, il y a les pressions de l'environnement. Donc l'asphyxie économique dans laquelle nous vivons qui a un impact sur la légitimité interne.
Le président burundais avait souligné jeudi que dans la tradition burundaise, un homme se retourne dans son lit mais ne se retourne pas dans sa parole. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Afrique du Sud, à un an des élections générales, le Congrès national africain au pouvoir a promis d'accélérer la réforme de la terre au profit de la majorité noire dépossédée pendant l'apartheid. Le gouvernement prévoit notamment d'exproprier sans indemniser pour restaurer la dignité des Noirs. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Pretoria, le professeur à l'Institut de droit international et comparé à l'UNISA, André Thomas Chaussen.
Dans l'année 1913, le pouvoir colonial anglais avait passé une loi par laquelle 86% des terres, des terrains en Afrique du Sud, fut réservé pour la propriété aux blancs. C'est-à-dire un noir, un Africain, ne pouvait pas acquérir la propriété des terres dans cette zone énorme, dans pratiquement la totalité de l'Afrique du Sud. Ainsi, il y a une injustice historique qu'il faut essayer de résoudre.
Comment le faire?
On a essayé de le faire à travers la restitution des terres. Quand il y a eu des familles ou des communautés africaines qui pouvaient démontrer qu'ils étaient déplacés de leur territoire traditionnel où ils avaient vécu avant 1913, ils ont acquis un droit de restitution. Le gouvernement a restitué en effet 14% des terres fertiles en Afrique du Sud, mais le programme a pas seulement coûté beaucoup d'argent parce qu'on a dû payer les compensations, mais aussi le programme a échoué. Pratiquement la totalité de ces terrains restitués ne sont plus productifs parce qu'ils ont été restitués à des gens qui ne sont pas des agriculteurs, qui ne sont pas des fermiers, et les terrains aujourd'hui se trouve abandonné.
L'année prochaine, vous allez avoir des élections. Est-ce que vous pensez que Cyril Ramaphosa pourra régler cette situation?
Très difficile. Il y a une résistance très forte du secteur agricole. Le secteur agricole productif, il est pratiquement à 100% blanc. Et ces gens-là, évidemment, ils ont peur. Ils ont peur d'une interférence dans leurs droits acquis. Aussi, pas possible de faire des investissements quand il n'y a pas une certainté sur le titre de propriété. Ça va très facilement provoquer une crise dans la production agricole, même pour la sécurité alimentaire. Et pour l'ANC, c'est difficile pour Ramaphosa de trouver un compromis entre la gauche du parti et aussi le parti d'opposition d'extrême gauche, les lutteurs pour la libération économique de M. Malema. Je pense qu'ils ne vont pas pouvoir passer une nouvelle loi avant l'élection de 2019. Ils vont essayer de faire quelques réformes, de donner un peu plus d'appui technique et d'appui de formation aux nouveaux propriétaires des terrains qui ont déjà été restitués pour essayer d'en faire un succès. Mais d'exproprier maintenant des terres qui sont productives serait un énorme risque économique.
C'était André Thomas Chaussen, professeur à l'Institut du droit international et comparé à l'UNISA.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et en route pour Singapour, le président Donald Trump s'arrête au Canada pour une confrontation attendue avec ses alliés du G7. L'atmosphère s'est envenimée par les taxes américaines sur les importations d'acier et d'aluminium. L'hôte du sommet, le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président français Emmanuel Macron ont critiqué la décision américaine. Mais que peuvent faire les Européens et Canadiens face aux États-Unis? Idriss Fall a joint Jean-François Seznec, professeur d'économie à l'université Georgetown.
Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent bien sûr se plaindre très fort, ils peuvent crier beaucoup, mais ils peuvent critiquer le président américain très très violemment, mais à la limite, ils ne peuvent pas faire grand-chose. La balance commerciale est tellement déficitaire aux États-Unis vis-à-vis de l'Europe que si vraiment les Européens essayent de faire une guerre commerciale contre les États-Unis, les Européens perdront beaucoup plus que les Américains. Les taxes qu'ils mettent sur les importations américaines en Europe font du mal aux États-Unis. À ce moment-là, tout d'un coup, Trump se mettra à mettre des taxes importantes, comme ils ont commencé à étudier la chose, sur les importations de voitures allemandes, par exemple, la plus grosse cause de déficit commercial des États-Unis. Donc, les Européens, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour se battre contre Trump en ce moment.
Donc, le G7, là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des positions de conciliation.
Je ne sais pas vraiment ce que les Européens peuvent offrir à Trump, sauf que peut-être il pourrait limiter, parce qu'il y a quand même beaucoup de barrières mises par les Européens sur les produits agricoles pour qu'il n'y ait pas de concurrence avec les fermiers français, allemands, etc. Et donc il pourrait y avoir une négociation là-dessus. Le problème, c'est que du côté européen, les familles, etc., ne veulent pas souffrir du fait qu'ils sont en concurrence avec les produits américains.
Mais est-ce que l'Europe pourra parler d'une seule et même voix? Parce que les intérêts allemands et français sont parfois divergents quand même.
C'est toujours un problème. Est-ce que la France et l'Allemagne essayent de travailler ensemble en ce moment autant que possible, mais il y a quand même beaucoup d'intérêts divergents. Donc les Américains peuvent relativement facilement travailler avec un pays mais pas avec l'autre et casser le front européen contre les Américains. Ça, c'est relativement facile à mon avis.
Il y a un autre contentieux, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. L'administration Trump menace de sanctions quiconque fera des affaires avec Téhéran.
À nouveau, les Européens qui essayaient de mettre en place des systèmes qui pourraient compenser les compagnies européennes qui font des affaires en Iran. Les grosses compagnies européennes ont déjà décidé, ils ne peuvent rien faire en Iran et ils vont travailler uniquement avec les États-Unis. Peugeot PSA, hein, la grande compagnie française de voitures, a déjà annoncé qu'ils allaient sortir de l'Iran. Total l'a déjà fait. Donc les Européens, de la même façon, n'ont aucune chance de vraiment faire un front contre les États-Unis et essayer de défendre l'Iran contre les États-Unis. Vraiment aucune chance que les Européens gagnent là-dessus.
Et c'était André Thomas Chaussen. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin du monde aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Dan Crafton, Raissa Gironda à la présentation. On reste connecté sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. Excellente suite de programme.
VOA Afrique, les infos.